Alors, je tiens bien sûr à vous remercier tous d'être là pour cette séance sur l'indiscipline. Je tiens aussi à remercier Madame Deussen, la directrice de la Maison de l'Allemagne, qui a bien voulu nous accueillir pour cette deuxième séance sur l'indiscipline pour cette année 2018-2017. Sachez, il y a des papiers qui vont circuler là dans une minute, le monsieur est en train de les faire, que c'est un séminaire qui a eu lieu sur 2 ans. Il y a déjà eu une série de séances l'année dernière à l'Université de Bordeaux, à l'école doctorale de l'Université de Bordeaux. C'est donc la deuxième saison de ce séminaire. Avec cette deuxième séance, nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir deux érudits, deux penseurs exceptionnels, Balbine Saint-Girons et Olivier Guerrier. L'une spécialiste du XVIIIe siècle, mais on verra qu'elle est spécialiste pas seulement du XVIIIe siècle, et Monsieur Guerrier, spécialiste du XVIe. Voici, ça c'est la présentation générale du séminaire. En deux feuilles. Alors, juste pour resituer un petit peu les choses, puisque le public change à chaque fois. Donc, le titre général de ce séminaire, c'est l'indiscipline, une ambition pour les disciplines. Une ambition pour les disciplines. Donc ça peut avoir quelque chose d'un petit peu paradoxal. Il s'agit en tout cas il s'agit toujours pour moi d'interroger les liens complexes qui existent entre les différents critères qui viennent réguler la pratique scientifique dans les sciences humaines et sociales, à la fois la consistance disciplinaire, la cohérence épistémologique, et paradoxalement parfois consistance disciplinaire et cohérence épistémologique ne vont pas toujours de pair, et des critères qu'on peut ranger de manière très générale comme exogènes, c'est-à-dire des critères éthiques, anthropologiques, socio-historiques, philosophiques, etc. Avec une question sous-jacente qui fait le lit de cette question sur l'indiscipline. Y a-t-il, peut-il, doit-il y avoir dans les sciences humaines et sociales un point de vue fédérateur, régulateur, centré sur une définition plus ou moins implicite de ce qui vaut pour l'humain? D'où la petite question qui fait le début de la présentation de la séance d'aujourd'hui. Quelles sont les conditions d'une reconstruction humaniste dans les sciences humaines et sociales aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est que précisément cette question n'a rien d'une évidence dans les sciences humaines, et même n'a rien d'une nécessité. C'est sans doute ce qui est le plus inquiétant. Alors, dans le colloque international qui est organisé par le Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, qui aura lieu en juin prochain, je remercie Olivier Guerrier de m'avoir signalé ce colloque. Précisément, il est dit que le XXe siècle est celui de la querelle de l'humanisme, qui se déclinera en diverses modulations du préfixe anti-humanisme, post-humanisme, hyper-humanisme, transhumanisme. Dans ces mouvements historiques enchevêtrés, je lis, les significations de l'humanisme et de l'anti-humanisme n'ont cessé de se déplacer, impliquant savoir, représentation et relations de pouvoir. Aujourd'hui, on peut se demander si la littérature mondiale, pour laquelle Eric Auerbach en appelait en 1952 au développement d'une nouvelle philologie, est une manière de renouveler le projet d'une critique humaniste. Ou bien si les fondements mêmes du projet humaniste, avec son effort éducatif par relecture de l'héritage culturel et par mise en avant des pouvoirs du langage, sont condamnés par l'explosion de la culture, sous l'effet globalisé de nouveaux médias, de nouvelles mobilités, de nouveaux périls. Alors, je dois avouer que pour moi, initialement, je voulais penser cette question dans un paradigme épistémologique bien spécifique et qui a son renouveau aujourd'hui et qui a été assez largement Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été assez largement escamoté, voire oublié du fait de la guerre. C'est celui des sciences de la culture, Kulturwissenschaft, qui ont été pensées, élaborées par Cassirer, Ernst Cassirer, d'où aussi l'importance symbolique, sans doute, de notre présence ici à la Maison de l'Allemagne, puisque c'est aussi une manière de reconnaître une dette symbolique à l'égard de cette Allemagne-là, du tout début du XXe siècle, peut-être une autre Allemagne que celle de Heidegger. Alors, c'est un. D'où, si vous regardez la présentation générale, le fait que j'ai invité, et j'ai eu la grande chance d'inviter des grands spécialistes de Ernst Cassirer tout au long de l'année dernière, François Rastier, Jean Lassègue, Muriel van Vliet. Et puis, au-delà de Cassirer, dans ce même bain épistémologique, disons, on a eu des séances sur les frères Humboldt, sur Abby Warburg, etc. Donc un même cadre épistémologique, à la fois culturaliste, disons, historiciste, comparatiste, qu'il s'agit aujourd'hui peut-être de réhabiliter et puis de réinventer pour notre aujourd'hui. Alors, Gilbert Simondon disait dans Du mode d'existence des objets techniques que chaque époque définit son humanisme en fonction des menaces les plus pressantes qu'elle identifie. Et alors, c'est intéressant de revenir dans le cadre de cette épistémologie, dans la mesure où vous ne serez peut-être pas d'accord, ça sera peut-être l'objet d'un débat, mais il me semble que précisément dans cette globalisation qui était signalée dans ce colloque sur l'humanisme, c'est à la fois soit un danger d'assimilation, d'uniformisation, soit un danger qui sont symétriques, d'essentialisation identitaire, de crispation identitaire. Et ce paradigme épistémologique de l'Allemagne du début du XXe siècle, précisément, c'était une épistémologie de la diversité et du spécifique. Et ça, c'est très intéressant parce que le spécifique permet de sortir de l'identitarisme, parce que le spécifique, il se définit par contraste avec des corpus, avec des ailleurs, et donc on a une définition qui est uniquement différentielle, on a une définition qui est contrastive d'une spécificité. Spécificité d'une œuvre, spécificité d'une culture. C'est à chaque fois la même méthodologie, disons, à la fois comparatiste et différentialiste, non identitariste. Et je pense qu'il y a quelque chose là d'un ferment très intéressant de cette épistémologie de la diversité. Alors ça paraît banal de dire, c'est divers, mais précisément, restituer du divers, c'est-à-dire restituer du singulier, c'est très difficile méthodologiquement, enfin ça demande une déontologie méthodologique tout à fait spécifique. C'est-à-dire comment faire pour que les objets culturels et les cultures ne soient pas des surfaces de projection, de toutes sortes de projections, mais qu'on puisse caractériser leur singularité aussi dans une histoire. Donc ce serait une science des objets qui résistent. Comment faire pour que les objets culturels nous résistent et donc nous surprennent? Et c'est par là que ce qu'on a pu appeler une anthropologie de l'homme en mouvement, qui est fondamentalement humaniste précisément parce qu'elle elle suppose des rencontres, c'est-à-dire une confrontation avec du singulier qui est inattendu, qui est imprévisible. C'est une épistémologie qui me semble avoir encore toute sa pertinence aujourd'hui, et c'est très intéressant de la voir restaurée, de voir des chercheurs qui essayent de rendre son intelligence pour notre aujourd'hui. Alors vous voyez, ça c'était le cadre épistémologique général auquel j'ai pensé quand j'ai commencé ce séminaire, mais bien évidemment, puisque je crois aux vertus du comparatisme, non seulement pour caractériser les objets d'étude, mais aussi pour caractériser les points de vue qui les constituent, j'ai souhaité inviter des chercheurs qui venaient d'autres horizons. Pardonnez-moi, j'ai l'esprit un peu en escalier. Ceci dit, je crois qu'il se pose la même question que celle que se posait un des spécialistes de Cassireur, qui était devenu donc à Bordeaux l'année dernière, Jean Lassaigue, et qui rappelait l'importance, la responsabilité dans les sciences humaines d'une réflexion sur ce qu'il appelle le double statut de la norme. Il disait, c'est très important, le double statut de la norme. Alors, pourquoi? Parce que la norme, elle est toujours à la fois, et c'est ce que les sciences humaines peut-être ont la responsabilité de penser, immanente et transcendante. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des grands mots. Une responsabilité, une norme immanente, c'est celle, par exemple, dans une discipline, d'une méthodologie particulière qu'une discipline définit. Bon, et on applique une méthodologie. Et puis, en même temps, ça n'empêche pas de l'articuler avec ce qu'on peut appeler une norme transcendante, c'est-à-dire une possible articulation de cette méthode, même dans des choses très techniques, hein, de caractérisation, de description d'un texte, une articulation avec une approche globalisante qui corrèle donc ce problème scientifique de description à des préoccupations, alors qu'on peut ranger sous la catégorie humaniste, mais encore faut-il savoir de quel humanisme on parle. Donc, en tout cas, la pensée d'une économie conjointe de ce double statut immanent et transcendant qui serait la responsabilité particulière des sciences humaines. Et je pense que là, on a deux grands spécialistes de cette enfin, c'est comme ça que vous me direz, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais de cette question d'une corrélation du double statut de la norme à la fois immanente et transcendante. Alors, on va donc écouter en premier lieu Olivier Guerrier qui va nous parler précisément, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important à faire, de l'humanisme au XVIe siècle, de son histoire. Et c'est seulement dans ces écarts-là qu'éventuellement on pourrait repenser le nôtre aujourd'hui. Je me permets de faire un tout petit, si je retrouve mon papier. Ceci dit, vous avez hein, la description, la petite notice bibliographique. Peut-être, est-ce que vous avez tous ce papier? Je suis la seule à ne pas l'avoir. Oui. C'est bon? C'est la description d'aujourd'hui avec les deux intervenants. Voilà, c'est ça. C'est bien. Et puis je présenterai en deux mots ensuite Baldwin Sagiron. Je vous laisse la parole.
Merci, merci. Merci de votre invitation. Effectivement, je vais jouer ici le rôle de l'historien, des pratiques, des formes et un peu du littéraire, de la littérature, avec tous les guillemets nécessaires, étant donné la distance historique qui nous sépare de ce temps-là, hein, et des notions telles qu'on les a définies aujourd'hui, qui n'avaient pas forcément le même, disons, la même définition et les mêmes contours à l'époque. Lorsque l'IA m'a proposé, disons, d'intervenir, je me suis rendu compte, enfin, j'ai souhaité faire quelque chose vraiment dans l'humanisme historique tel que je le conçois, tel qu'on peut le récupérer avec toute la modestie qui s'impose aujourd'hui avec nos outils modernes. Donc je vais opérer un parcours là qui va passer de encyclopédisme à littérature en essayant de thématiser et de constituer l'indiscipline qui ne l'est évidemment pas à l'époque mais qui peut peut-être nous servir à penser un certain nombre de choses pour essayer effectivement de répondre finalement à un certain nombre de questions qui viennent d'être rappelées dans l'introduction et notamment le titre d'ensemble, l'indiscipline, une ambition pour les disciplines. Il y a un exemple lié qui circule, d'une part, et d'autre part, la table des matières d'un ouvrage de Corneille Agrippa, germanique, du début du XVIe siècle, sur lequel je vais m'appuyer, ainsi que la table des matières du tiers-livre de Rabelais. On va osciller entre Allemagne et France en particulier, ainsi que vous allez pouvoir le constater. Je prendrai appui donc sur ces citations et également sur les deux autres textes. Vous avez d'ailleurs le plan que je vais essayer de tenir dans le temps qui m'est imparti, enfin les quatre temps cinq avec la conclusion que je propose de suivre. Donc l'encyclopédia, qui est l'avatar latinisé de l'Ekklios Paideia grec, vous avez le terme Ekklion Paideian dans la première citation qui est de Quintilien, est justement transmise au monstre humaniste par Quintilien dans l'institution oratoire, dans un passage qui traite des sept arts libéraux, sur lesquels je reviendrai un instant tout à l'heure. Je cite juste un extrait de ce premier exemple. Je vais maintenant ajouter un mot sur les autres arts, dont je crois la connaissance utile aux enfants, avant qu'ils ne passent entre les mains du rhéteur, afin de parcourir le cercle des sciences que les Grecs appellent encyclopédie, ekkyklion paideian. On retrouve les deux termes qui nous intéressent ici, encyclopédie et discipline, sous la plume de Guillaume Budé, en 1522, dans une version revue de l'Institution du Prince, la deuxième citation, un cercle des arts libéraux et sciences politiques appelé encyclopédie, qui signifie selon son nom en un mot circulaire érudition, ayant les dites sciences et disciplines, connexité mutuelle et cohérence de doctrine et affinité d'études. La première apparition d'encyclopédie dans un titre d'ouvrage, dans l'Europe humaniste, c'est un phénomène historique qui est évidemment un phénomène européen, toujours flanqué d'ailleurs de l'autre terme discipline, a lieu dans l'ouvrage de Paul Chalic de Lika, qui paraît à Bâle en 1559, Encyclopedia seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam profanarum epistemon. Et un peu plus tard, dans le siècle, Jean de Cor, Picard, écrit lui dans ses œuvres morales de 1575, troisième citation, « La continuation, communication, conjonction, la suite des disciplines bien composées, entrelacées, tissues, est appelée encyclopédia, c'est-à-dire discipline qui en a la rotondité et enclos contient toute discipline. » Je passe sur les entrées du dictionnaire de Jean Nicot, le premier grand dictionnaire de la langue française publié en 1604. Mais vous verrez qu'il y a une entrée discipline militaire qui a cours à l'époque, et petit à petit, la discipline scolaire est apparue dans la langue française. En tout cas, on retiendra ici l'idée de cohérence, de circularité, de clôture, de parcours et de tissage entre les disciplines. Ce qui nous conduit à un bref aperçu maintenant de l'encyclopédisme renaissant, forcément non exhaustif, bien sûr. Donc, ces arts libéraux dont parle Quintilien, hérité de Charlemagne, se divisent en deux degrés, le triuium et le quadriuium. Le triuium, c'est-à-dire trois chemins en latin, concerne le pouvoir de la langue et se répartit lui-même en grammaire, dialectique et rhétorique. Quant à l'autre, quatre chemins, il se rapporte au pouvoir des nombres et se compose de l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Ces deux stades correspondent au premier niveau, en fait, dans les facultés mineures. Vient l'apprentissage des sciences dans les hautes facultés, plus nobles, destinées aux étudiants plus âgés, c'est-à-dire ce sont les facultés supérieures de médecine, de droit et de théologie. Les médecines et théologie étant en dessous, quelque peu, parce que pratiques aussi, finalement, à la théologie. On notera dans cette arborescence quelques répartitions nouvelles dans l'humanisme, sous l'influence par exemple des penseurs arabes comme Al-Farabi, avec l'introduction, et également les padouans par exemple, l'aristotélisme padouan, avec l'introduction dans cet organigramme de certaines disciplines comme la physique, la science morale, les sciences politiques. Il y a quelque chose aussi qui monte en puissance petit à petit au cours de cette renaissance, au sens plus large du terme, depuis au moins le Quattrocento jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est la philosophie naturelle qui devient peu à peu la quatrième grande discipline avec la médecine, le droit et la théologie, dans certains cursus et dans certains ouvrages. Car ce n'est pas du côté des contenus des savoirs et de leur organisation que la nouveauté est la plus évidente en fait, c'est dans celui de leur mise en forme. Au Moyen-Âge, la transmission se faisait essentiellement, dans le cadre universitaire, par des lectures de textes sous forme de questions disputées, réelles ou fictives. À la Renaissance, ce type de transmission, vous allez le voir, formellement existe encore, mais, disons, se diversifie. par des textes universitaires, des éditions pour public cultivé, avec attention particulière mise à la présentation, l'imprimerie favorisant la vulgarisation au bon sens du terme. À partir de là, de nouvelles encyclopédies remplacent les sommes médiévales, en suivant d'ailleurs le cursus universitaire en rigueur. Et j'ai choisi donc un Allemand pour commencer, mais pas n'importe lequel d'ailleurs, Gregor Reisch, R-E-S-C-H, qui va publier à Strasbourg en 1503 la Margarita Philosophica, c'est-à-dire la perle philosophique, littéralement. J'avais le frontispice, la mousse, voilà. C'est la deuxième édition, celle-là de 1508. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir de très nombreuses éditions chez l'éditeur strasbourgeois, mais également assez rapidement, à la fin du siècle, une traduction italienne, par exemple, avec donc des ajouts, des enrichissements, en sorte que cette encyclopédie innerve littéralement le XVIe siècle européen, et est intéressante, est un exemple assez remarquable de ce point de vue-là. Elle se dispose en quatre parties, triuium, quadriuium, philosophie naturelle et philosophie morale, couvre l'ensemble des savoirs de l'époque, résumé en 12 sections. Reliquat, si l'on peut dire, un vestige du mode de la disputatio médiévale, les données sont exposées par un jeu de questions et réponses entre maître et disciple, magister et discipulus, une espèce de dialogue fictif, mais ce qui contribue par sa linéarité à casser le moule de la lectio, c'est-à-dire la lecture du texte puis son commentaire, puis de la quaestio, la démultiplication de ce texte en objections, réfutations et démonstrations, qui prévalait dans la scolastique. J'ajoute que cette Margarita a une orientation religieuse, Reich ayant participé, ou disons frayé avec la devotio moderna, un courant développé dans les pays germaniques en particulier, d'une spiritualité intime et mystique. Perspective particulièrement évidente dans les derniers livres consacrés aux principes et à l'origine des choses naturelles. Alors, ce volume est conçu dès la seconde édition strasbourgeoise, dont le frontispice la circule, comme véritablement une encyclopédie. Hein, c'est ce qui est dit par une épigramme liminaire à propos du livre. Et le titre de l'édition de 1583 consacre définitivement le terme en le glosant. Hein, c'est notre exemple 5. Margarita Philosophica hoc est habitum seu disciplinarum omnium, etc. Je traduis la perle philosophique, c'est-à-dire la très parfaite encyclopédie de tous les acquis et disciplines contenues dans la plus authentique philosophie. Il y aura d'ailleurs dans une traduction italienne de 1599 l'ajout de certaines disciplines nouvelles, du reste, hein, modernes, comme venant infléchir ou rompre le cercle, qui va être évidemment un des fils directeurs de cette communication. Comment sortir du cercle des disciplines, justement? Eh bien, une première possibilité interne véritablement au geste encyclopédique est donnée par la tradition italienne, mais c'est simplement au fond que l'organigramme petit à petit se complète, comme je le disais tout à l'heure, de savoir nouveau. Cette inflexion s'accompagne d'une autre, de plus en plus visible au XVIe siècle, soit la floraison d'ouvrages qui n'ont plus l'ambition de la totalisation, mais opèrent en quelque sorte des coupes dans le savoir, en privilégiant, en faisant un zoom si l'on veut, sur un domaine spécifique. Et c'est le cas des trésors. Il y a des tesoros en espagnol aussi, hein, notamment de Houdin, par exemple. Hein, et en Espagne, Houdin va beaucoup puiser dans les tesoros espagnols, dans son trésor français-espagnol célèbre. Le trésor pouvant apparaître selon comme une sorte d'étiquette titulaire ou même de genre épistémique. C'est une collègue italienne, Gianna Pomatta, qui a élaboré, disons, cette expression pour ces espèces de formes, finalement, que l'on peut reconstituer, regrouper en corpus, qui ne sont pas directement littéraires, selon peut-être des normes d'aujourd'hui, mais qui effectivement adoptent une certaine cohérence. Pour ce qui est du trésor, une centaine d'œuvres et environ 450 éditions différentes sont identifiées jusqu'à présent en langue française, portant dans leur titre le terme de trésor, entre 1470 et 1630. Alors vous avez des trésors des fleurs et secrets de médecine, des histoires de France, des prières aux raisons et institutions chrétiennes, ou encore de sentences dorées. Enfin, ça part un peu dans tous les sens, mais à chaque fois, il y a l'idée de compendium, en quelque sorte, de regroupement, hein, de coupe, comme je le disais tout à l'heure, dans le savoir. Un pas de plus, et on aboutit au miscellanée, dans le sillage de celle inaugurale d'Ange Policien en Italie en 1489, c'est-à-dire parfois des sortes de pot-pourri ménipéens, hein, en tout cas beaucoup plus libres que tout ce qu'on vient de voir dans leur présentation. Et c'est le cas des œuvres morales de ce genre de corps de 1575, qui d'ailleurs rappelle les œuvres morales et mêlées de Plutarque, Camus a traduit en 1572, œuvre de chevet de Montaigne dont on parlera tout à l'heure s'il en est, et plus encore toute une littérature relevant des variae lectiones mises en vedette par Olugel, dont en particulier la Silva de Varia Lecciones de Pedro Mejía, Pierre de Messie, qui aura un très gros succès en France à partir de sa traduction en 1554. Cette veine particulière trouve une sorte de bilan dans ce passage de l'avant-propos, des mélanges historiques et recueils de diverses matières, pour la plupart paradoxales et néanmoins vraies, d'un nommé Pierre de Saint-Julien, publié en 1588, c'est-à-dire lors de l'année de la publication de l'édition parisienne chez Abel Langelier, des essais de Montaigne, et je ne dis pas ça pour rien, puisque vous allez voir qu'il va conclure, enfin en tout cas la citation, je l'ai arrêtée, à une mention de Montaigne. Donc Olugel, Aulus Gellius, a écrit Les Nuits Attiques, et de notre temps, quelques hommes de bon esprit ont publié des matinées, des serrées, il y a un ouvrage comme ça, nommé Guillaume Boucher, hein, en France. Macrobius a nommé l'un de ses livres Saturnal, et Justus Lipsius eut le même titre pour Agréable, etc., etc. Angelus Politianus, Petrus Nanius et autres ont fait des miscellanées que j'ai interprétées, traduit autrement dit, mélange. Andrea Alciatus, le grand juriste avant Cujas, européen du droit humaniste, a laissé deux livres, l'un Dispunctionum, l'autre Parergon, ce qui signifie en marge, marginalia. Adrianus Tournebus, dont Montaigne rapporte qu'il fut d'ailleurs l'un de ses professeurs, a remis en ouvrage ce mot adversaria, le sieur de Montaigne, a montré en ses essais qu'il n'a pas faute d'érudition. Bon, on y reviendra tout à l'heure. S'il peut y avoir porosité possible entre ces trois modes, finalement, d'écriture, hein, encyclopédie, trésor, mélange, ces deux derniers, beaucoup plus hétérogènes, occasionnent donc une certaine atomisation du savoir et encouragent davantage une lecture en liberté et des parcours multiples. Deuxième temps, donc, indiscipline, l'encyclopédisme en fiction et en question. C'est sur cet arrière-plan de genre et de type d'écrire, alors que déjà, comme on le voit, se problématise en leur sein même la volonté de synthèse du premier humanisme, que vont se détacher des œuvres promises à une fortune spécifique. Et je commence donc par Rabelais. On a constaté déjà que dialogue, banquet, paradoxe participaient de cette vulgarisation de la connaissance. C'est, en plus du genre des chroniques, hein, les grandes et inestimables chroniques du grand géant Gargantua, étudiées par Bakhtine par exemple, hein, et la tradition populaire en tant que telle, ce à quoi s'adosse Rabelais pour composer sa geste. Je rappellerai juste une chose, c'est que dans ses années lyonnaises, il publie des ouvrages savants, Hippocrate, Galien notamment, chez Sébastien Griff, l'éditeur savant de la place lyonnaise, et en parallèle, en 1532, chez Claude Nourry, auditeur différent à la foire d'automne de Lyon, et sous un pseudonyme, Alcofribas Nazier, les horribles et épouvantables faits et gestes du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, viendra ensuite, deux ans plus tard, 34 ou début 35, la vie inestimable du grand gardien, tu vois, père de Pantagruel. Le mot encyclopédie figure dans la première édition de Pantagruel, en 1532, donc. Au chapitre 13, Thomaste déclare de Panurge qu'il a ouvert le vrai puits et abîme d'encyclopédie. Ce savoir complet que possède Panurge résume l'idéal d'étude. D'ailleurs, dans le chapitre 8, un peu avant, le fameux chapitre « Maintenant, toutes les disciplines sont restituées », c'est la lettre au fond du père au fils, Gargantua avait défini les principes en traçant à son fils le programme pédagogique qu'il lui désirait voir suivre avant qu'il devienne un abîme de science. C'est dire que la tentation encyclopédique est toujours ici présente, mais en quelque sorte versée dans l'univers gigantal et fictionnel des romans. Rabelais, par exemple, recycle le genre médiéval de la liste. Cette dernière constitue alors une pause, voire une protubérance à l'intérieur de la narration. Dans le chapitre Les Jeux de Gargantua, pas à Gargantua cette fois, devenu autonome, chapitre 22, à partir de l'édition de 42, on trouve justement une liste de jeux au sujet desquels Charles Sorel, un peu plus tard, déclarera, hein, c'est un vrai dictionnaire que son livre, s'il parle de jouer, il nommera tous les jeux, citation 7. Mais c'est surtout le tiers-livre, par la forme globale qu'il adopte, qui est le plus aisément assimilable au modèle encyclopédique que l'on vient de croiser et qui va nous intéresser tout particulièrement ici. Il va nous intéresser par intervention d'un nouvel auteur d'encyclopédie, également germanique, hein, qui s'appelle Corneille Agrippa. D'abord, 10 ans s'écoulent entre la première édition de Gargantua et celle du tiers-livre publié en 1546. À la montée progressive des tensions en Europe et en France, répond la faveur que connaît la philosophie pyrrhonienne dans toute l'Europe. La philosophie pyrrhonienne, grande pourfendeuse en son temps, dans l'Antiquité, des dogmatismes disciplinaires, et que la découverte de Sextus Empiricus à la fin du XVe siècle va réactualiser. Rabelais la connaît par les vies et doctrines des philosophes illustres, d'une part, best-seller humaniste s'il en est, mais par donc un autre ouvrage, le De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium, de l'incertitude et vanité de toutes les sciences et les arts, de ce nommé Corneille Agrippa, né à Cologne en 1486, et qui publie donc ce volume en 1530. Le texte, dont vous avez d'ailleurs le sommaire, hein, de la version en latin, hein, entreprend de mettre au pilori toutes les disciplines, hein, triwium, quadriwium, les sciences les plus hautes, sans oublier d'ailleurs, après les premières, les philosophies naturelles et morales, vous en avez la trace, hein, dans ce sommaire, avec ça et là au milieu d'ailleurs, astrologie, magie, alchimie. Agrippa a publié en 1510 et a commencé une première carrière, on va dire, dans l'alchimie, d'où un premier volume assez remarqué d'ailleurs, le De Occultia Philosophia. Je ne le traiterai pas, parce que je n'aurai pas le temps, si j'arrive à finir avec Bérois de Verville, mais il est évident que l'alchimie figure en ce temps-là comme une manière, au fond, de problématisation des disciplines et de l'ordre disciplinaire. Une sorte de point de fuite. Hein. Je m'intéressais davantage, moi, à ce schème pyrrhonien, si l'on peut dire, mais il aurait lieu, je crois, hein, d'envisager l'alchimie et également ce que Garin, notamment, a appelé la magie, hein, voilà, à cette époque-là. Bon, enfin bref, toujours est-il que on a en fait des savoirs bénéficiant d'un crédit faible, en quelque sorte, qu'on va retrouver chez Rabelais, qui voisine avec les savoirs accrédités, hein, même ceux du plus haut niveau. Le tout se termine, vous le voyez là, ad encomium asini digressio, par un éloge de l'âne, c'est-à-dire au fond de la docte ignorance, sagesse paulinienne en quelque sorte, hein, qui consacre cet animal, que Giordano Bruno, à la fin de la Renaissance, va carrément faire une sorte d'emblème d'une asinité, une forme de docte ignorance philosophique. Bref, c'est là, Agrippa se fait adepte du scepticisme chrétien, en quelque sorte, hein, qu'on appelle fidéisme aussi, hein, la conclusion invitant les lecteurs Anne à préférer la sapience de l'arbre de la vie à celle de l'arbre de science, de bien et de mal, et à se retirer en eux-mêmes. J'ai mis dans la citation 8 le titre de la traduction française, qui est tardive, de 1582, de Louis Turquet de Mayenne, hein, qui parle de déclamation. C'est un genre assez important dans l'Europe humaniste, dans l'ensemble de l'Europe humaniste, reçu de la latinité, et qui va innerver, hein, le tiers-livre, hein, entre autres genres. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une sorte de trajectoire apologétique d'un scepticisme chrétien qui nous permet donc de sortir du cercle de la connaissance, d'une manière un peu paradoxale d'ailleurs, hein, comme l'indique le titre français en l'occurrence. Revenons au tiers-livre, du coup, ou passons au tiers-livre, hein, puisque minutes pour me reste-t-il?
Il est 20h10, c'est comme j'ai compris.
Un quart d'heure? Un quart d'heure, très bien. Alors, nonobstant le fait que le personnage de Trouillogan, hein, qui intervient, donc vous avez le sommaire, il a la trouille, c'est un sceptique, c'est un peu normal. Le sommaire maintenant, la table des matières du tiers livre, hein, il intervient dans les chapitres 35-36, que ce est un philosophe pyrrhonien, que celui d'Er Tripa, consonance germanique, comme vous le voyez, serait directement, c'est au chapitre 25, serait directement inspiré de Cornelia Agrippa. Ce qui est plus intéressant, c'est que les étapes et le schéma d'ensemble de l'ouvrage de Rabelais font penser aux modèles encyclopédiques et à celui du prédécesseur qui, en pourfant le mieux les prétentions, soit Agrippa. Pour fil récurrent, à partir du chapitre 9, 14 consultations d'experts ou de maîtres devant répondre à Panurge sur la question du mariage et de son sort. Dois-je me marier? Serais-je cocu? Dialogue qui rappelle quelque peu ce qu'on trouvait chez Reich, comme vous le voyez, mais versé dans la fiction gigantale, là encore. Mais à chaque fois, on aboutit à la perplexité du héros et non à la construction d'un savoir positif, selon une sorte d'oumalonne, c'est un des mots sceptiques, pas plus ceci que cela, ou d'époqué, c'est la fameuse suspension du jugement que recherchaient les sceptiques antiques, systématique, qui évoque aussi bien d'ailleurs les diatribes sceptiques, hein, Sextus écrivait aussi des diatribes qui pourfendaient les grammairiens, les professeurs, les pédagogues, tous les dogmatiques, que les différents chapitres d'Agrippa, qui concluaient les uns après les autres à la vanité des sciences et des arts. Cela dit, il y a une sorte de dimension zététique un peu parodique. La zététique, c'est la recherche, car les sceptiques ne se contentaient pas de la suspension. Il fallait à chaque fois relancer le mouvement de l'équilibre des représentations. Et du coup, c'est ce que le roman, d'une certaine manière, organise et orchestre lui aussi, en reprenant un modèle encyclopédique en même temps. Le tiers-livre passe ainsi des disciplines, lui aussi, faiblement accréditées, là d'une manière plus nette que chez Agrippa, 6 consultations divinatoires, à ce que le narrateur nomme la tétrade pythagorique, c'est-à-dire les 4 grands savants convoqués par Pantagruel, à partir du chapitre 29, mais ce, sans que la moindre solution soit trouvée au final. Mieux encore, il se produit au milieu de cette dernière, c'est-à-dire la tétrade en question, qui réunit un philosophe, donc le fameux Trouillogan, un médecin, un théologien et un juriste, il se produit une bizarrerie structurelle, diégétique, puisque manque à l'appel, lors du banquet en question, le juge Bridois, dont les compagnons, le juriste autrement dit, devront aller assister au procès en un lieu proche. C'est aux alentours donc des chapitres 37 par là. Cela donne l'occasion à Pantagruel de parler à Panurge du fou Triboulé, c'était le nom d'un des fous de François Ier d'ailleurs, chapitres 37 et 38, avant que ce dernier, après le procès du nommé Bridois, ne soit à son tour consulté, chapitre 45. En sorte que, non seulement la science pénètre la folie, mais c'est finalement cette dernière qui, dans l'affaire, va avoir le dernier mot. Folie, non pas de la croix tout à fait d'ailleurs, mais forcément, nouvelle figure de dépassement possible, si je puis dire. Triboulet tend en effet une bouteille à Panurge, un geste, et ce dernier se trouve interprété par les protagonistes dans le chapitre 47, j'ai mis un extrait là aussi, qui s'intitule donc « Comment Pantagruel et Panurge délibérèrent visiter l'oracle de la dive bouteille ». Par aventure, répondit Pantagruel, signifie que votre femme sera ivrogne, au rebours, dit Panurge, car elle était vide. Et je rafraîchis de nouveau mon vœu premier, et je jure Styx et Achéron en votre présence, que sur mon entreprise, je n'ai eu le mot de la dive bouteille. Je sais, homme prudent et ami mien, un ami à moi, qui sait le pays, le lieu, le pays et la contrée, en laquelle est son temple et oracle. Il nous y conduira sûrement. Allons-y ensemble. Je vous supplie de ne pas m'y conduire. Je vous serai un Achate, un Damis et compagnon en tout le voyage. Je vous ai de longtemps connu amateur de pérégrinité et désirant toujours voir et toujours apprendre. Ce qui est annoncé, c'est le voyage vers l'oracle de la dive bouteille, sorte de nouveau Graal. Alors là, on pensait peut-être à une sorte de sortie du cercle vers la folie. Voilà quelque chose qui rebondit étrangement, qui amorce évidemment les deux romans suivants. Et il est toujours question, malgré tout, vous le voyez, dans le programme ainsi tracé, par Panurge et non plus Pantagruel, une sorte d'inversion du rôle au fond du maître et du valet dans cette affaire, d'assouvir une libido sciendi. Reste à savoir quelle est exactement, je dirais, le problème que pose ce déplacement, on le verra tout à l'heure. Je passe de Montaigne à Verville maintenant, hein, d'autres auteurs de l'époque. Montaigne lui est aussi influencé par le pyrrhonisme aux alentours de 1574. On le voit dans le fameux chapitre de l'Apologie de Raymond Sebond, hein, c'est le chapitre théorique, disons doctrinal, si l'on ose dire, hein, des essais, lui-même pas mal influencé par l'ouvrage d'Agrippa. Ce chapitre apporte un socle philosophique antidogmatique au projet primitif de l'essai, ce qui, bien des années après, fera dire à Marie de Gournay, l'éditrice posthume, hein, l'éditrice de l'édition posthume des essais, du livre de Montaigne, que ses compagnons enseignent la sagesse, ils désenseignent la sottise. N'allons pas croire toutefois que cette apologie, hein, qui se termine sur un mouvement d'anéantissement de la vanité humaine, livre le message total de l'œuvre, ni que Montaigne ne fasse pas montre d'érudition. D'ailleurs, notre Pierre de Saint-Julien le rappelait, hein, la grande culture de ce dernier. Seulement, en décidant de s'attacher à l'ici-bas, en consignant les humeurs et fantaisies d'un individu de la commune sorte, d'heure en heure et de minute en minute, on mesure aujourd'hui mal la radicalité de la décision montaignienne en ce temps-là, où l'écriture du sujet, si vous voulez, est un écriture mémorialiste en particulier. Il pousse à son point extrême la déconstruction de l'encyclopédie humaniste, déjà à l'œuvre chez ses devanciers, chez ses contemporains. Il se décrit ainsi, dans le reportage de sa librairie, « Là, je feuillette à 7 heures un livre, à 7 heures un autre, c'est citation 10, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant, mes songes que voici. » Du coup, l'ouvrage va à saut et à gambade. Il est, selon l'expression même de Montaigne, une marquetterie mal jointe, où s'accusent les disparates, les disjonctions, le refus des parcours programmés, qui explique entre autres qu'ici, le nom des chapitres n'en embrasse pas toujours la matière. Le savoir est passé dans les essais au crible d'un jugement particulier qui refuse les leçons toutes prêtes, et d'une œuvre qui inclut viscéralement, c'est son originalité fondamentale, la durée intime dans l'espace textuel. Sur le plan de la production, de la lecture, de l'écriture, de la réécriture, il en résulte que tout cela est conçu comme une série de rencontres aléatoires. Le terme est très épais dans la langue française du XVIe siècle. Autrement dit, pour cette acception d'ajustement imparfait et précaire entre sujet et objet, qui défie évidemment toute volonté de totalisation et de cohérence. Il y a deux exemples là que je vais passer, parce qu'il faut que j'en vienne au dernier moment, dans l'Apologie de Raymond Sebond. Le premier exemple où se définit une figure nouvelle d'un philosophe imprémédité et fortuit, Montaigne dit que ses mœurs sont naturelles et qu'il a trouvé finalement dans les écrits par rencontre des anciens de quoi les conforter. Bon. Et puis ensuite, vous pourrez le voir, hein, Montaigne en se relisant se rencontre, c'est-à-dire se retrouve à l'aventure, de sorte qu'un étranger pourrait le rencontrer mieux que lui-même, ce qui problématise évidemment le sujet, si l'on peut dire, hein, ou l'individu avant l'heure, hein, avant finalement que prenne consistance la subjectivité moderne. Bon, enfin bref, ce terme rencontre, déjà présent chez Rabelais, est cardinal dans l'œuvre de Montaigne, dans ses différentes acceptions. Et il devient un genre de structuration paradoxale chez un de leurs meilleurs lecteurs de la fin du XVIe siècle. Il publie ses œuvres à partir de 1600, soit Béroald de Verville, dans le cabinet de Minerve en 1601, est scandé d'une série de rencontres, c'est-à-dire rencontres entre perception et objet. Vous avez également le titre du Moyen de parvenir, hein, que j'ai reproduit, hein, une sorte de banquet, justement, inspiré du banquet philosophique, où là, pour le coup, se désagrège littéralement le savoir humaniste en une série, au fond, de titres sur 111 chapitres qui renvoient à des catégories de la logique. Par exemple, la conclusion est en 13e position, mais dont le contenu n'est jamais en rapport avec eux. De la même manière, les savants mobilisés de toutes les époques ne parlent jamais de discours conformes à leur statut et leur autorité. J'en viens au dernier temps. S'arrêtera-t-on sur cette mise en pièce de l'organisation et de la production des disciplines, soit sur un constat d'échec et une complète négativité. Significativement, dans ces trois œuvres que forcément, vu le temps, on a brièvement parcouru, il y a thématisation d'une refondation, d'une alliance nouvelle possible, comme si la mise en crise, voire la sortie des savoirs, n'était qu'un moment à dépasser pour laisser place à un ordre différent. Cela va prendre la forme d'un contrat interne de type éthique entre les différentes instances convoquées par ces espaces discursifs. On revient à Rabelais. À la fin du tiers-livre, les personnages assument donc le risque de l'interprétation aventureuse. Panurge j'en avais peur, désormais il est conforté. Hein, ce qui les conduira jusqu'au mot de Laura Bacbuc du cinquième livre, « Soyez vous-même interprète de votre entreprise ». On a vu d'ailleurs que Panurge, dans ce chapitre que j'ai lu tout à l'heure, se faisait le chant d'une compagnie. Hein, et dans les lignes cursives, il indiquera d'ailleurs que c'est ses compagnons, un de ses compères, qu'il suivra, et non plus une quelconque sibylle, comme dans les consultations antérieures, dans le tiers-livre. À la toute fin du roman, pour préparer la navigation qui va occuper les deux livres suivants, le navire est chargé de Pantagruélion, herbe magique, mais hautement emblématique de la conduite à adopter face au mystère du monde qu'il faudra encore croiser et tenter de comprendre. Pantagruélion, Pantagruel, Pantagruélisme, attitude dont il avait été question dès les premiers romans, et qui consiste non pas à se scandaliser, ce terme est très fort, il vient des évangiles, et il figure dans le design liminaire de Gargantua, mais à accueillir l'inconnu en bonne part. Et c'est également une attitude de ce type que requiert le narrateur de son lecteur dans ses prologues, et en particulier dans celui du tiers-livre, où sont distingués les lecteurs bénévoles, des cafards, cagots, on s'attendrait presque à un bachibouzouk du capitaine Haddock, toujours susceptible de se crisper face à ce qui sort des sentiers battus. En ce qui concerne Montaigne, le partenaire de bonne foi, ici un livre de bonne foi lecteur, dit la vie de 1580 au lecteur, est convié à épouser des trajets insolites, hétérodoxes, là aussi hors des voies tracées d'avance. Montaigne lui confie le soin de confirmer et ratifier, en quelque sorte, les mulances, c'est un de ses termes, de sa pensée et de sa plume, de rencontrer son air, comme il l'exprime dans le chapitre 40 du livre 1. À mesure d'ailleurs qu'il gagne la notoriété, et qu'il s'adresse alors à des lecteurs de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus inconnus, Montaigne, sur l'exemplaire de Bordeaux, c'est le dernier moment, au fond, de son projet d'écriture, c'est un exemplaire qui actuellement on essaye de classer à Bordeaux, à l'UNESCO d'ailleurs, hein, évidemment un Apax, puisque c'est la plume de Montaigne sur un exemplaire imprimé de 1588. Sur cet exemplaire, il sera inachevé à sa mort. Il insiste sur les conditions de réception de son œuvre en les dramatisant, ce que montre une addition autographe du chapitre de la présomption, hein, c'est la dernière citation. Et puis pour qui écrivez-vous? Les savants à qui touche la juridiction livresque ne connaissent autre prix que la doctrine et n'avouent autre procès dans nos esprits que celui de l'érudition et de l'art. Si vous avez pris l'un des Scipions pour l'autre, que vous reste-t-il à dire qui vaille? Qui ignore Aristote selon eux, s'ignore quand et quand en même temps soi-même. Les âmes communes et populaires ne voient pas la grâce et le poids d'un discours hautain et délié. Or, ces deux espèces occupent le monde. La tierce, à qui vous tombez en partage, des âmes réglées et fortes d'elles-mêmes, est si rare que justement elle n'a ni nom ni rang entre nous. Le lecteur attendu est donc défini en termes d'éthique, selon une éthique de l'autonomie qui le maintiendra libre et fort. Il y avait le pantagruélisme tout à l'heure. Il y a cette espèce d'éthique étonnante qui, on ne définit pas les modalités de lecture d'abord en termes d'intellection, si l'on veut, mais en termes d'éthique et de morale. Cette dernière est la condition, en fait, de la dite intellection, puisqu'il ne faudrait pas croire que la dimension subjective de l'essai substitue un moi souverain au contenu de savoir. Dans les essais, en fait, c'est le protocole qui régit d'ordinaire la production comme la réception de la connaissance qui se trouve modifiée. Et Montaigne le déclarait dans La vie au lecteur, « Je n'ai voulu ici tenir compte ni de ton service, ni de ma gloire, ce qui fausse le protocole habituel de la transmission autoritaire des connaissances. » Je laisse tomber Verville pour conclure. Est-ce qu'on doit être surpris de cette inflexion qui transfère finalement sur le plan de la réflexivité de la réception une positivité qui semble pour tout ou partie avoir déserté l'univers de la référence dans ses œuvres? Ou pour le dire autrement, qui, sur les décomptes du savoir et de la vérité objectif, sur fond de dilution de leurs prétentions et de leurs mirages, suggère par compensation, pourrait-on dire, contrepartie, des modes d'appréhension de la connaissance d'un autre genre? En fait, pas réellement. Si l'on considère qu'on a là comme une variante extrêmement spécifique, on parlait de la spécificité tout à l'heure, d'une triade qui, selon Stéphane Toussaint, hein, dans un ouvrage dont je rappelle le titre très important, « Humanisme, anti-humanisme, de Ficin à Heidegger, paru aux Belles Lettres en 2008, une triade qui régit les œuvres humanistes dès leurs principes, soit l'alliance d'une manière ou d'une autre, du studium, l'érudition, de la caritas, déployée ici en pentagruélisme, qui peut être la charité évangélique, etc., ou une éthique comme Montaigne, et de la civilitas, qui forme ou reforme communauté. Cependant, si ces trois textes, c'est ce que ça montre, sont bien de leur temps, hein, s'ils s'inscrivent en cela d'ailleurs, par ailleurs, dans un continuum, j'ai essayé de le montrer, de discours et de pratiques, modèle encyclopédique, mélange, exposition du savoir en fiction, il se peut que la manière très particulière qu'ils ont de jouer avec les disciplines en crédit, et plus encore d'induire des types de négociations avec un lectorat, soit la marque de la littérarité que l'histoire leur a peu à peu reconnue. Au moment où, selon un de mes collègues de la Sorbonne, Jean-Charles Monferrand, les arts poétiques se constitueraient en une discipline de savoir autonome, ces étranges objets, sans réelle qualité ni ambition générique, Montaigne invente un genre sans le faire exprès, hein, souvent situés à la marge des activités officielles et érudites de leurs auteurs. Rabelais travaille chez Griff, et il écrit en marge ses ouvrages, d'ailleurs en transférant des données de la connaissance à l'intérieur de sa fiction. Montaigne a été magistrat, il rompt avec sa carrière pour occuper sa librairie, mais André Tournon en particulier l'a montré, il n'abandonnera pas un espèce de moule juridique qu'il convertira en une discursivité autre. Bref, en marge donc, à la marge des activités officielles et érudites de leurs auteurs, ces objets peuvent apparaître comme une façon d'habiter, d'investir autrement la langue et les sciences, tout en demeurant malgré tout eux aussi un mode d'intervention dans le champ social du temps. Ce qui, par voie de conséquence, ne coupe aucunement l'orientation que je propose ici d'une sociologie de la pratique lettrée de façon très large. Autrement dit, des outils et des taxinomies par lesquels, depuis au moins les années 70, on conçoit les disciplines littéraires dans la première modernité. Mais la perspective invite à opérer, à l'intérieur de la production de la Renaissance notamment, un déplacement indiscipliné du regard, susceptible de donner, d'essayer de donner sens, consistance, fermeté à ce territoire qui s'invente alors. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques ou questions? Est-ce que C'est un peu intimidant, je reconnais. pour rebondir autant que je le peux, hein, mon point d'observation, comme tu disais, c'est justement cette épistémologie de chez Cassirer. Ce qui est intéressant, c'est il y a quelque chose, j'ai l'impression que se constitue quelque chose de l'ébauche d'une science qu'on pourrait appeler du singulier. Alors, c'est très intéressant parce que chez Cassirer et plus encore chez les sémioticiens actuels qui reprennent en partie cette épistémologie-là, il y a cette revendication d'une science, enfin, l'invention et la revendication d'une science qui aurait le droit de ne pas être une science du général, puisque depuis Aristote, la science, elle est née science que parce qu'elle est du général. Alors comment penser justement une science du singulier et qui aurait sa légitimité tout autant qu'une science du général? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve en fait cette même tension entre cette même effort gigantesque de somme, hein, que dans l'Atlas Mnemosyne chez Abi Warburg, les frères Humboldt qui partent à l'aventure en Amérique du Sud, etc., avec cet effort gigantesque, hein, c'est vraiment presque surhumain, à chaque fois de sommation des savoirs, et des savoirs autres aussi, parce qu'il y a aussi cette autoréflexion par des savoirs autres, et en même temps, cette éthique de la rencontre. Alors, c'est troublant, justement, et là, il y a quelque chose de cette tension qui se retrouve tout à fait, c'est ce qu'on peut appeler ces humanistes de la fin du 19e, début 20e, voilà, à la fois cette nécessité de sommer, alors peut-être de se perdre aussi dans cet abîme d'encyclopédie, mais en même temps de rechercher à l'intérieur de ça la rencontre, parce que c'est l'interprétation aventureuse, l'idée que la rencontre puisse être aventureuse et pas seulement une confirmation du savoir, c'est typique de ce genre d'épistémologie. Alors, je voulais, quand vous avez parlé d'éthique de l'autonomie, j'aimerais bien que vous reveniez sur le mot autonomie.
Alors d'abord sur ça, puis après je reviens à ce que vous voulez dire. Oui. Très simplement, hein, à regarder cette formule-là, âme réglée et forte d'elle-même, on a des traces un petit peu de stoïcisme là-dedans, très certainement. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que, et à ma connaissance, les stoïciens n'ont pas vraiment fait ça. Oui. C'est une attitude existentielle, ici c'est une attitude de lecteur en réalité, hein, qui est définie très très nettement. Et au fond, effectivement, ce qu'on le dit souvent, hein, Montaigne opère un déplacement intéressant, c'est-à-dire qu'il substitue finalement au contenu de la connaissance en tant que telle, la disposition qu'il importe d'adopter par rapport à elle. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, on trouve déjà ça chez Rabelais, hein, très très nettement. C'est-à-dire finalement la manière plutôt que la matière, hein, si je puis dire, au fond la tâche réflexive plutôt qu'en tant que telle le travail sur la référence. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ce qui n'enlève rien évidemment au contenu référentiel, hein, il ne faudrait pas s'y tromper.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il garde, enfin se maintient cette nécessité d'une sorte de positivité,
bien sûr,
et voilà,
bien sûr.
Et comment la trouver, c'est ça qui est, c'est vraiment, c'est trop, ouais. Pardon, je vous ai coupé.
Non,
sur l'autonomie.
Bon, de toute façon, je me référais au terme grec, hein, dans son étymologie en tant que tel, inventer ses propres normes, hein, il y a quelque chose comme ça, c'est exactement ce que Montaigne invite le lecteur à faire, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant dans les essais, c'est qu'il sollicite un partenaire, et de plus en plus d'ailleurs, qui pourra reconnaître ces tracés insolites que sont les essais. Et du reste, tous les lecteurs, à part ceux peut-être du 18e et un peu Pascal, se sont laissés prendre parce qu'on ne retrouve pas les tracés orthodoxes là-dedans, hein, de l'ordre du discours, comme dirait Foucault. Bon, il fallut attendre vraiment, André Tournon en particulier, pour qu'on commence vraiment à comprendre ce que c'est que ces textes qui s'enroulent sur lui-même, plutôt que d'avancer d'une manière téléologique, où toutes les étapes se replient potentiellement les unes sur les autres, qui forcément dévient, hein, le regard et dévient nos usages de lecteur. Et c'est justement pour ça que Montaigne, de plus en plus, donne des directives à son partenaire, lequel est appelé finalement, puisque la vérité objective, il n'y a plus de vérité qui s'impose par le maître, à ratifier dans une sorte de vérité contractuelle et intersubjective le contenu de connaissance à l'essai que lui-même a proposé. Il y a quelque chose d'assez intéressant du point de vue, je crois, de la parole philosophique malgré tout, mais qui repose sur une activité contractuelle, laquelle repose, on l'a vu, sur une éthique. J'ajoute d'ailleurs que le texte des essais, à deux reprises, programme même qu'on puisse être en désaccord avec Montaigne. Autrement dit, au bout de la réflexion, c'est moins l'accord sur le contenu qu'il importe que finalement la convergence éthique déterminera finalement la lecture et la dite ratification. Un mot sur singulier et rencontre. Le singulier est aussi la rencontre. Le terme a des acceptions importantes en français, mais on peut revenir à Machiavel. Hein. Si on considère justement que le prince édicte, ou disons ébauche, hein, une philosophie politique justement empiriste avant la lettre, hein, eh bien, on n'est pas étonné de voir chez Machiavel que le verbe, hein, riscontrare en italien, hein, est présent à un moment décisif. Le prince est celui qui rencontre la qualité des temps. Hein, voilà. Autrement dit, qui a la capacité, une sorte de kairos moderne, si l'on peut dire, à gérer l'événement dans sa modernité, j'allais dire, dans sa nouveauté radicale. Hein, c'est ça aussi qui distingue Machiavel, refuse les modèles politiques antérieurs, hein, pour rencontrer cette qualité des temps, c'est-à-dire le temps le plus empirique qui soit, d'heure en heure, de minute en minute, dit Montaigne. Hein. À partir de là, eh bien, il y a véritablement la rencontre et l'événement qui se mettent en articulation, je crois, l'un avec l'autre. C'est pas si contradictoire que ça.
Je voudrais faire une remarque et puis trois questions par rapport à aujourd'hui. La remarque, ça concerne la question là, de l'IA à travers le titre là, du séminaire, qui a changé d'ailleurs, c'était d'abord discipline d'indiscipline, et puis ensuite l'indiscipline d'une ambition pour les disciplines. À vous entendre, moi j'ai envie de dire que c'est. fait que la discipline est une ambition pour l'humanisme, donc pour les disciplines. Ou peut-être, on pourrait le formuler autrement aussi, pour avoir bien écouté l'entremêlement là, entre le goût pour le savoir et les sciences, et puis pour leur un écart à l'égard de ces sciences, discipline et indiscipline formeraient une ambition pour l'humanisme. Mais une question que j'ai à poser, ce concerne le rapport entre ce temps-là, disons, et puis aujourd'hui. D'une part, au fur et à mesure que vous parliez, il me semblait que... Enfin, j'hésitais, je me demandais si l'humanisme que vous évoquez est plutôt, disons, passe par le savoir ou contre le savoir. Bon, c'est les deux à la fois, mais ça a l'air d'être plutôt... disons, grâce au savoir institué, contre ce savoir institué, avant tout contre, mais grâce à lui. Mais je me demande si aujourd'hui, la situation peut être un peu différente, en ce sens que, il y a, peut-être, hein, peut-être qu'on ne se pas d'accord, mais l'hyperspécialisation, mais dont on peut se dire qu'après tout, elle existait aussi à sa manière à l'époque, à voir, ne fait pas que l'encyclopédisme sera lui seul une forte contestation humaniste contre, disons, l'institution des sciences. L'institutionnalisation des sciences. C'est la première question aujourd'hui. La seconde, c'est que vous montrez à quel point, du moins chez certains auteurs, cette critique de sciences instituées, disons, passe par le christianisme. Par quoi peut-elle être inspirée aujourd'hui? Et j'en avais une troisième question, mais en rapport avec ce que vous avez dit. Et au début, enfin, j'étais titillé et étonné un peu par le renvoi à une forme de transcendance. Mais on emploiera peut-être. Enfin, il y a peut-être différentes manières d'attribuer un sens à ce mot par rapport aux normes immanentes. Bon, à titre personnel, hein, je crois que. Mon humanisme, je crois qu'il n'y a pas mieux pour définir l'humanisme que d'inviter chacun à tenter de le définir, plutôt qu'à croire qu'on peut le définir. Ne passe pas par une transcendance, sûrement pas, surtout pas, mais d'un autre côté, peut-être y a-t-il, sur Béchic, ce que je suis en train de me dire, que c'est en écho aussi peut-être avec les inspirations de Baldwin, Saint-Girons, est-ce que ça ne passe pas quand même par quelque chose qui nous dépasse, mais qui serait dans l'homme même, en quelque chose.
Vaste programme.
Oui, non, mais en fait, quand Jean Lassec parlait de normes transcendantes, précisément, c'est ça qui est. Oui, c'est vrai que ça peut porter à confusion, en fait, parce que c'est pas. Dès lors qu'on... Enfin, celui qui énonce la légitimité est illégitime. Enfin, dès lors qu'on décide ce qu'est l'humanisme, il se dissout. C'est bien ça leur difficulté aussi. Et du coup, cette idée qu'on est dans une épistémologie de la métamorphose, de la transformation. Donc, il n'y a pas d'essentialisation, en fait, de l'humain. Ce que l'on cherche par la rencontre, c'est... ce qu'ils appellent une anthropologie de l'homme en mouvement, mais c'est ça, l'anthropologie de l'homme en mouvement est cette éthique. Alors, elle n'a pas de... Précisément, elle n'a pas besoin de s'auto-définir. Elle est la sollicitation de rester... d'accueillir l'inconnu, comme vous disiez. C'est plutôt ça. Et puis, c'est tout. Justement, précisément, il n'y a pas de surplomb. Mais être dans cette épistémologie, dans cette philosophie de la métamorphose, voilà, c'est peut-être... Donc, c'est paradoxalement une norme transcendante, non normalisatrice, précisément.
peut dire trois choses, mais bon, on n'a peut-être pas le temps.
Non, mais, dites, oui, assez... oui, parce qu'on veut entendre.
On ne peut absolument pas effectivement définir l'humanisme sans parler érudition, hein, studium. Ça, c'est absolument impossible. C'est le geste, le moment, le paradigme historique de la Renaissance vénitienne et florentine. Hein. Déjà pour commencer, les manuscrits grecs d'Orient, etc., les imprimeurs. Bon, mais ça induit effectivement quelque chose, puisque vous parliez de transcendance. Il y a une forme, sans illusion rétrospective, progressive de, allez, osons le mot, laïcisation, sécularisation, hein, via par exemple cette espèce d'apologie de la transmission que l'on trouve chez Rabelais. Ce mot d'ordre aussi célèbre qui vient en fait du duc de Saint-Victor au Moyen-Âge, des nains sur les épaules de géants, hein, à visage humain, à hauteur d'homme. Non, évidemment que la grammaire chrétienne est très présente. On l'a vu dans ce pantagruélisme-là, c'est pas très loin. Hein, Rabelais a frayé avec l'évangélisme. C'est une des données et une des coordonnées qui permettent de comprendre ce pantagruélisme qui ne se réduit pas totalement à une posture évangélique néanmoins. Hein. Quel pourrait être le pendant moderne ? Ben, prenons Montaigne, le livre de bonne foi. Là, on a quelque chose d'intéressant avec la foi. Hein. La fidesse, c'est un terme évidemment cardinal dans tout l'humanisme. Bon, testamentaire. Ensuite, juridique, hein, la bonne foi du témoin. Et enfin, chez Montaigne, la bonne foi de l'écrivain par rapport à son lecteur. On a là un processus, si vous voulez, de dévidement progressif des sèmes, on va dire plutôt religieux, attachés au terme. Et le terme, petit à petit, gagne un espace qui est celui de l'écriture et de sa réception, et donc de la lecture, susceptible, effectivement, là encore, de se situer à hauteur d'homme. Bon, ça serait peut-être une réponse possible à ce que vous disiez, à la question, une des questions très pertinentes que vous posiez.
Une petite dernière, parce que...
Est-ce que cette sécularisation ne serait pas dans le christianisme même, c'est-à-dire la savoir du Saint-Christ, alors, je pense à Guillaume de Cam, ce que fait Guillaume de Cam dans le domaine juridique, c'est-à-dire finalement à la fois une rupture avec Aristote et en même temps l'affirmation d'un singulier qui ouvre une nouvelle direction.
Ben, vous vous souvenez, sans regarder trop le Moyen-Âge, mais en se situant vraiment dans la Renaissance, en plein cœur, hein, Erasme défie la chronique à partir du moment où il traduit l'Ancien Testament de la manière suivante, « In principio erat ratio » et non « verbum ». Ça dit beaucoup de choses, quand même ça. À l'intérieur même du geste par définition de transmission de la Bible et de l'Ancien Testament, on a ce glissement de sens par quelqu'un qui peut absolument pas être suspecté d'athéisme, on ne sait quoi, c'est totalement anachronique. Hein. Lucien Febvre avait écrit un livre dans les années 60 sur la religion de Rabelais, où il avait notamment proposé de considérer cette période comme un siècle qui veut croire, c'est-à-dire qui ne peut pas se départir d'un horizon totalement providentialiste. Ça a été combattu, hein, pour autant. C'est peut-être d'ailleurs le champ plastique et littéraire qui nous permet d'entrevoir des modalités avant l'heure, avant théorisation du hasard. Chez Montaigne, la rencontre, c'est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Hein. Bon, bref, hein, ça donnerait une faculté d'anticipation, peut-être de sublimation, enfin, je ne vais pas m'en là. Mais en tout cas,
merci.
Ça fait transition.
Merci beaucoup. Eh bien, donc maintenant, avec transition, pas sans transition, nous allons écouter Baltine Saviron nous parler de sublimation et indiscipline.
Bon, je voudrais d'abord te remercier, Lia, parce que c'est Lia qui m'a donné le titre de mon intervention. Et effectivement, c'est exactement ce que je voulais faire, mais je ne le savais pas avant qu'elle me le dise. Et donc... Je t'en sais vraiment pleinement gré. Je commencerai par l'exergue qui sera emprunté à Jacques Pigeot. Et les contemporains se sont spécialisés. En fait, ils ont renoncé. Le progrès n'est pas là où on croit. Alors, mon point de départ, c'était l'idée que les termes discipline et indiscipline désigne des valeurs qui sont rarement neutres et simplement descriptives, mais le plus souvent laudatives ou péjoratives. D'un côté, la discipline semble garante d'originalité, de profondeur, de sens de l'aventure et de la liberté. Vive l'indiscipline. Mais de l'autre côté, on stigmatise sous son nom le manque de contrôle de soi, d'éducation, d'ordre, d'efficacité. Quant à la discipline, on la condamne souvent comme assomption de la servitude, preuve de dénuement d'imagination ou marque d'absence d'esprit critique. Mais force aussi de reconnaître que la discipline concentre les forces, qu'elle préside à l'action et à la recherche collective, et même qu'elle favorise aussi l'épanouissement individuel et la création artistique. Le génie est d'abord un emploi du temps, a-t-on dit. Et force est de le reconnaître avec Gide, l'art naît de contraintes, vit de lutte, meurt de liberté. Faut-il tenir ce paradoxe? La profonde ambivalence de l'indiscipline, prise comme gage tantôt de force et tantôt de faiblesse, rappelle l'ambivalence des mots primitifs, dont la théorie fut conçue par Adèle, développée par Wundt, et reprise par Freud dans Totem et Tabou. Ainsi, sacer signifie sacré et maudit, et tout à la fois, tout en s'opposant à profane, qui a lui aussi une valeur double. Chaque fois, nous avons affaire à un couple dans lequel les deux partenaires échangent par certains côtés leurs valeurs. Aussi bien constate-t-on avec quelle habileté l'éloge ou le dénigrement de la discipline et de l'indiscipline sont exploités par les différents partis politiques de droite ou de gauche. À l'apprentissage et au conservatisme d'une discipline imposée, on opposera le refus véhément de celle-ci, qui débouchera sur l'absence de discipline, une discipline davantage choisie, une discipline imposée mais nouvelle, etc. On ne saurait réduire à la dispute éternelle des anciens et des modernes les conflits qui jaillissent entre ces diverses conceptions. Je poserai donc d'emblée que ce qui donne à l'indiscipline son sens est d'abord le choix d'assumer ses propres investissements et de définir un type de travail sui generis. Il s'agira alors de montrer comment et pourquoi l'indiscipline et l'indisciplinarisation, je prends les termes, et l'indisciplinarité, je prends les termes de Laurent Lotti, sont aussi nécessaires à la discipline que l'anti-académisme l'est à l'académisme. Entre l'indiscipline et la discipline, il n'y a pas contradiction, mais seulement contrariété et composition mutuelle de force. Les opposés forment un couple dans lequel l'expansion de l'un entre en rapport fluctuant avec celle de l'autre. La logique qui règne n'est pas celle ontologique du tiers exclu, la logique d'Aristote, qui prévaut dans le rapport substance-accident. La logique qui prévaut est celle du tiers inclus. Pourquoi alors avoir associé l'indiscipline à la sublimation au sens large et au sens restreint? Au sens large, parce que la sublimation opère une certaine rupture avec le monde naturel et son trop-plein. C'est ce que j'appellerais, mais la faculté de dégagement. Elle découvre le caractère instable, flottant des signifiants. Il repose sur la prise de conscience de notre responsabilité à leur égard. Comment nous en approprier les sens préexistants? Comment leur insuffler un sens actuel? Les signifiants n'existent pas de façon stable. Mais ils exigent tout un travail psychique afin de prendre vie. Il nous faut les réinvestir et les réapproprier, et ce travail n'est pas délégable. Voilà bien ce dont témoigne l'indiscipline, selon laquelle les voies anciennes doivent être répudiées au profit de voies toujours à réactualiser. Il importe alors de prendre conscience des risques auxquels l'indiscipline expose, afin de la composer avec la discipline en résistant aux sirènes d'une totale adiscipline. Quelles formes de discipline ou d'indiscipline nous sont-elles nécessaires dans la perspective de la sublimation ? Si la sublimation montre une sidérante aptitude à la métamorphose, qui concerne tantôt davantage les buts du sujet et tantôt davantage ses objets de désir, tantôt davantage la capacité à se forger un nouveau monde et tantôt davantage celle de s'insérer d'une nouvelle manière dans un monde donné, alors comment l'acquérir et la cultiver ? La difficulté, comme je m'en expliquerai, est de saisir l'articulation de cette conception de la sublimation avec celle du sublime, en essayant de comprendre ensemble, 1. La dimension tragique du vécu existentiel, la douleur d'exister, la maladie foncière de l'âme. 2. La force spécifique du signifiant par rapport à toute espèce de signe. Le langage ne commence qu'avec l'opposition, avec la coupure. Un signifiant ne vaut que par rapport à un autre signifiant qui n'est pas. Et last but not least, last dans la découverte, non dans la pratique, l'énergie organisatrice des pulsions qui se manifeste au niveau individuel à travers une véritable odyssée qui fait passer d'un stade d'organisation et d'investissement libidinal à un autre. Il faut penser les moments orales, anales et génitales du désir les uns par rapport aux autres. Il s'agit de saisir la genèse du désir en pensant les liens de la sublimation à l'anticatharsis tragique, à l'Aufhebung hegelienne et à la Sublimierung freudienne. Mais voilà qui passe par l'étude de la perversion et de la subversion, termes qui pourraient bien désigner les maillons de la chaîne qui relie l'indiscipline à la sublimation, en concernant des formes essentielles de destin pour la libido, conçues dans sa plus formidable plasticité. Cette trajectoire de mon exposé, une fois dessinée, commençons par réexplorer dans la suite des conférences précédentes et d'articles fort importants sur la question, l'essence du terme « discipline » qui nous paraît essentiel à notre propos et par dire quelque chose du travail intérieur dont nous sentons parfois l'impérieuse exigence tout en ayant du mal à y répondre. L'histoire du terme « discipline » n'est aucunement raison, mais elle nous donne quand même quelques orientations. Le premier sens semble spirituel et religieux. De fait, le terme « discipulus » est emprunté au latin du christianisme pour désigner d'abord les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus et qui ont suivi son enseignement, comme le rappelle Alain. Le sens se généralise alors en se rapprochant de ceux d'élèves, d'étudiants, d'apprentis. Lorsqu'on parle ensuite de discipline, tantôt on met l'accent sur la relation d'enseignement dans le couple disciple-maître. Disciplina vient de disquerer, qui signifie apprendre et s'oppose à doquerer, enseigner. Tantôt sur la matière enseignée. C'est ainsi que, par métonymie, la discipline devient une branche de connaissance en 1370 selon Alain Rey. Mais s'il faut noter l'enrichissement sémantique de la discipline, d'un côté par son utilisation dans l'art de vivre plus ou moins bien réglé, de l'autre côté dans l'intégration civile et surtout militaire, dans le code pénal et dans les pratiques plus ou moins ostentatoires de mortification. La discipline devient instrument de flagellation, le rang, je veux dire, dire Molière à Tartuffe, serrer ma R avec ma discipline. Que pourrait signifier ce parcours? Il semble en tout cas que la discipline tende à se laïciser et que les infractions à ces codes fassent l'objet d'une sévérité de plus en plus raisonnée. Son arbitraire tend à se réduire. Ça irait un petit peu de pair avec cette sécularisation que vous avez montrée dès le XVIe siècle. Aujourd'hui, le terme discipline conjoint deux sens qui nous concernent le premier chef en tant qu'enseignant-chercheur. Remarquons d'ailleurs au passage que cette expression d'enseignant-chercheur est oxymorique et exige l'alliance de deux fonctions dont la réunion semble explosive. Comment enseigner ce que je cherche, et donc je n'ai pas encore trouvé? Comment chercher ce que j'enseigne, et donc que j'ai déjà trouvé? Quelle que soit la manière dont nous interprétons cette fonction paradoxale qui nous est attribuée, nous nous rapportons avec discipline à des disciplines. Est en effet discipline une spécialisation universitaire qui capitalise les acquis dans un champ déterminé et oriente la recherche de façon plus ou moins rigide ou souple. Mais est discipline également un ordre ou une méthode plus ou moins imposée ou choisie. Tantôt la soumission l'emporte, que ce soit aux ordres et conseils d'un maître, aux consignes d'un surveillant, aux directives d'un laboratoire, aux choix d'une institution. Tantôt, au contraire, les capacités individuelles et concrètes de sublimation s'affirment plus directement. Alors, qu'en est-il du processus de sublimation pris au sens large? Pour le comprendre, je voudrais faire appel à l'expérience que nous faisons presque inévitablement d'une exigence que nous rencontrons sporadiquement, rencontre toujours, et qui se renforce si nous y prêtons attention. Celle d'un travail caché, ou du moins peu apparent, qui est d'abord intérieur, et qu'il importe de définir en deçà ou au-delà des formes historiques et dûment balisées qu'il a prises dans la confession, l'exercice spirituel, les traditions qui consistent à faire le vide, et surtout dans la psychanalyse, dont le mérite essentiel est de contraindre à reconnaître la scission subjective et la non-coïncidence de soi avec soi. L'anthropologie psychanalytique est forcément fondée sur la scission subjective, elle est forcément fondée sur la mise en question de toute identité et la, au contraire, l'attention portée au processus d'identification tel qu'il se produise concrètement. Ce travail caché ou peu apparent consiste dans un va-et-vient de soi à soi, ou de certains soi à d'autres soi, nous sommes dans le pluriel, au sein d'un espace, ou plutôt d'un milieu, au sens de Gustenberg, topologiquement complexe et doté d'une grande élasticité. Ce va-et-vient ne s'effectue pas seulement entre un soi plus subjectivé et expérimentateur et un soi plus objectivé, propre du cobaye. Il opère entre les soies du rêve et de la rêverie, les soies du désir épars aux multiples visages, et le soi de la veille, plus consistant, mieux formaté. Il ne concerne pas seulement le « je pense », ni le soi-même comme un autre rencontré dans le miroir, mais un « je peux », plus élémentaire, qu'il est possible d'expérimenter seulement à l'intérieur de ce milieu, en revenant à l'immédiatement senti, sans raisonnement ni comparaison. Le fait primitif montre, comme le montre Maître de Biran, c'est que l'esprit met en mouvement le corps et cause ce mouvement. C'est une philosophie extraordinaire que celle de Maître de Biran, pour c'est le premier psychologue de l'intérieur comme tel, et c'est un désastre qu'il soit resté si peu lu. Je pense qu'on peut pas, quand on commence à lire, ne pas ressentir une grande commotion. Il ne s'agit pas d'une observation faite de l'extérieur, ni d'une connaissance objective, mais d'une expérience conduite à travers le moi, dont le moi est partie prenante, et qui lui permet de se ressaisir se saisir, se ressaisir au sens littéral du terme. Mais cette expérience primitive de ma volonté comme mouvement de mon corps s'élargit à la prise de conscience des pulsions que j'anime et qui m'animent. De là l'oscillation entre curiosité et sentiment d'urgence. La curiosité, elle est peut-être entre les deux, quoi. Bon. Non seulement selon la nature plus ou moins conflictuelle des pulsions qui se profilent, mais selon ma capacité d'engagement ou de dégagement, ma façon intime de me débrouiller avec elles. Force est alors de constater la présence d'un désir qui n'est pas seulement dirigé vers ce qui me manque, comme on le dit toujours après Descartes, mais qui prend figure d'hôtes dérangeants, se montre problématique et infamilier, unheimlich, peine à se dire mien. Dans ce chaudron, comme l'appelle Freud dans l'abrégé de psychanalyse, où s'agitent différentes motions pulsionnelles, différents souvenirs, différents songes, toutes sortes de mécanismes psychiques interviennent, plus ou moins observés par la conscience du dedans ou du dehors d'elle-même. Formation réactionnelle, renversement dans son contraire, retournement sur la personne propre. Où suis-je? Quand suis-je? Suis-je? Le sentiment simultané d'une richesse intérieure et d'un danger venu de sa complexité m'envahit. Un certain type d'hébergement des représentants des différents mouvements de l'âme et du corps est alors nécessaire. Il s'agit de soupeser, d'évaluer, de négocier des motions qui semblent d'abord s'exclure mutuellement, mais se révèlent finalement capables de composer entre eux selon une logique non pas des contradictoires, mais des contraires. Du tiers est inclus et non exclu. En vue d'unifier, d'élever et de modifier quant à son objet, quant à son but, ce désir ingouvernable et pluriel, tout en tenant compte de ses possibilités de reconnaissance sociale, qui est l'autre, telle est l'issue du travail de sublimation tel que le définit Freud. Was bekannt ist, ist darum nicht erkannt, répétait Hegel. Ce qui est connu n'est pas pour autant reconnu. Entre le connu et le reconnu, il y a un hiatus. Comme dirons-nous, entre le senti brut, vite oublié, et le senti trié, mémorisé et élevé, autrement dit sublimé. Goethe emploie le terme sublimiert en ce sens. Reconnaître ce qu'on connaît suppose un travail. Sentir ce qu'on sent suppose un travail. Cela ne va pas de soi, car cela passe par la médiation des signifiants, et de signifiants qui font énigmatiquement corps entre eux. C'est ça quand on sent le corps des signifiants qui s'appellent les uns les autres et qui ont le sentiment d'être de possession, en fait, quelque chose de très difficile à réaliser. Si bien que le senti du senti se trouve à la fois sauvé grâce à eux et remanié sous leur influence. Oui, j'avais un de mes collègues qui un jour m'avait dit... Vous savez, moi, Baldine, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on peut penser. Et c'était d'ailleurs quelqu'un de merveilleux, qui était un excellent logicien. Et je me suis dit, j'étais très jeune, je crois que j'ai rien dit. Mais je me suis dit à moi-même, in petto, oui, mais moi, j'aimerais plutôt savoir ce que je pense. Bon, j'aimerais plutôt arriver, justement, à la figure du cercle, ou cercle, peut-être, donner trop au cercle, mais... J'aimerais bien comprendre ce que je pense, ou ce que, étant donné tous les tenants et les aboutissants que je réalise, comment je pense effectivement. Dans mon livre sur l'acte esthétique, j'ai voulu habiliter et rendre visible le travail esthétique plutôt que le sentiment ou la relation esthétique. L'acte esthétique implique une décision, plus ou moins consciente, par laquelle je m'utilise moi-même pour m'exposer à l'altérité, l'approfondir et la retravailler, de manière à produire un senti au deuxième degré, imprégné de savoir et d'imagination, qui devient réel. Ainsi, l'acte esthétique répond à la provocation du sensible, sauvegarde l'altérité, enrichit le réel et instaure un lien substantiel entre les hommes. Alors, pour dire les choses de façon plus simple, J'ai trouvé récemment dans la correspondance de Maurice Guérin, je l'avais cité l'autre jour, mais en 1828, à un moment où il n'avait que 18 ans, une mention des impressions qu'il s'efforçait de garder pour les laisser mûrir. Cela dans un rapport étroit à un abandon et à une tristesse qui ne lui laissait pas d'autre choix. Alors, je vous donne la citation. À l'âge de 6 ans, je n'avais plus de mère. J'étais le seul enfant qu'il y eut dans la maison, et lorsque mon âme avait reçu quelque impression, je n'allais pas la perdre et l'effacer au milieu des jeux et des distractions que m'eût procuré la société d'un autre enfant de mon âge. Mais je la conservais tout entière. Elle se gravait profondément dans mon âme et avait le temps de produire son effet. Cette gravure, et surtout cette discipline de la gravure, est essentielle. Un affect se mémorise mal. Il faut l'attacher à des signifiants, garder cette volonté-là. Voilà aussi qui fait naître une vocation d'esthète, de poète. Rappelons que l'articulation de la reconnaissance au sentir est devenue un problème central à la fin du XVIIIe siècle. Comme le montre bien l'Académie royale de Berlin, qui propose en 1773, l'année de Werther, un concours sur l'examen des deux facultés primitives de l'âme, la faculté de sentir, qui est censée se tourner vers l'objet, et la faculté de connaître, qui est censée s'occuper de l'âme elle-même et de ses états. Alors, Herder a concouru, et vous connaissez sans doute ce petit livre merveilleux, qui est « Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele », qui a été récemment traduit en français par Claire Pagès, et qui fait toute une théorie du Reiz, de l'impression, à partir de la physiologie des fibres de Heller, et développe une étonnante et précoce critique de l'Aufklärung pour habiliter philosophiquement le pouvoir des muses. Alors, je voudrais vous lire ce texte, parce que c'est de la prescience, c'est un texte donc, qui a été publié en 1778, mais qui fait la critique de l'Aufklärung, comme si on était déjà en plein romantisme, et qui est véritablement prémonitoire. Face à un tel abîme d'obscures sensations, forces et excitations, la philosophie lumineuse et claire qui est la nôtre, celle de l'Aufklärung, est maintenant horrifiée plus que tout. Elle se signe comme devant l'enfer des plus basses forces de l'âme. Et elle préfère jouer sur l'échiquier lanitien avec quelques mots et classifications aveugles concernant les idées obscures et claires, distinctes et confuses, concernant la connaissance en soi ou hors de soi, avec soi ou sans soi-même, et ainsi de suite. Cette méthode est si facile et charmante qu'on l'a déjà élue comme premier principe pour n'introduire dans la philosophie rien que des mots vides, au regard desquels on est tenu de penser aussi peu que celui qui calcule avec les nombres qu'il utilise. Cela devrait procurer à la philosophie la perfection de la mathématique, de pouvoir conclure sans réfléchir, puissent les muses garder d'une telle philosophie. Hein? Alors, Daphné Vignon, qui a fait récemment une thèse sur ces sujets, reconnaîtra effectivement une critique à laquelle moi je crois qu'il ne faut pas souscrire trop rapidement, mais qui est quand même bien intéressante, c'est-à-dire que finalement la philosophie, ça serait trop facile et trop vide, n'est-ce pas ? C'est qu'elle manquerait cette espèce de bouillonnement terrifiant d'une libido qui parcourt des stades quoi qu'on en ait et qui inspire des pensées dont on n'est pas maître. Bon. Alors, cette critique-là, il faut la tenir et penser qu'elle a été formulée au sein de la Aufklärung elle-même. Hein. Et à mon avis, il faut se méfier de ce texte, mais
le texte est passionnant comme tel. Il me semble qu'il pose vraiment le problème. Face à ce travail caché ou peu apparent qui englobe la sublimation mais ne s'y réduit pas, le travail qu'autrui ou la société nous impose a de nombreuses et formidables utilités théoriques et pratiques. Non seulement ils nous permettent à la fois d'apprendre et d'apprendre à apprendre, mais ils nous permettent de nous discipliner dans un espace commun qu'ouvre la raison, prise non pas au sens ancillaire de faculté dispensatrice de service, mais au sens très général de faculté de discernement, de jugement, au sens érasmien, hein, que vous disiez tout à l'heure. En ce sens, et comme l'écrit Spinoza, l'homme qui est dirigé par la raison est plus libre dans la cité où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. Ça, c'est le célèbre passage de l'Éthique 4, on en est vraiment à l'apogée de la raison, en quelque sorte. Ensuite, elle sera viciée par des pratiques détestables au service desquelles elle se mettra. Mais là, la raison est pleine. Mais si foncièrement utiles que soient les disciplines imposées par la cité, il n'en arrive pas moins qu'elles fonctionnent de façon qui peut contredire dangereusement la discipline dont on sent l'exigence intérieure, ou qu'elles deviennent plus simplement un alibi pour ne pas faire le travail intérieur. Ce travail intérieur qui est dévorateur de temps, qui ne peut être immédiatement reconnu comme tel. Quant au ravage presque inévitable de la monodiscipline, dès lors qu'elle cède à la crispation identitaire, je les ai dénoncés dans mon exergue emprunté à Jacques Pigeot. Se spécialiser, et se spécialiser seulement, se peut être aussi renoncer. Jacques Pigeot, lui, au cours des 23 entretiens de la Garenne Le Mot, s'est obstiné à faire travailler chaque année ensemble les mêmes spécialistes, dont Jacques Athanas Gilbert, et Madeleine était très souvent là, mais bon. Jacques, tu as participé à un très grand nombre, à une dizaine au moins d'entretiens de la Garenne Le Mot. Et l'idée de Jackie, c'était de faire travailler chaque année ensemble des spécialistes sur des questions d'intérêt général. Il s'agissait de confronter nos spécialités et surtout de nous instruire les uns les autres. Cette leçon, il me semble qu'un enseignement philosophique la délivre. C'est du moins ce par quoi il m'a semblé hautement désirable. Car la philosophie ne transmet pas seulement des contenus, des techniques formant plus ou moins système, elle prétend également apprendre à penser à partir de soi et de ses réactions les plus intimes. La question n'est pas seulement que peut-on penser, elle est qu'est-ce que je pense, moi, en tant qu'être pluriel et demi-savant, malgré mon ignorance, ma faiblesse, mon inadaptation foncière. Je crains d'être un peu plus longue. Est-ce que je vais à ma conclusion ou est-ce que je peux encore parler
tout, oui, il est 11. Est-ce que...
Tu me donnes combien de temps?
Oh mon Dieu, quelle responsabilité. Si on a 5-10 minutes, mais de toute façon, dans la mesure où nous sommes entre nous, si ça déborde un peu, j'ai l'impression que...
Bon, alors, tu me donnes quand même 8 minutes.
C'est ça.
Bon, très bien. Alors, revenons à ce nouage de l'indiscipline avec le sublime, la sublimation, la perversion et la subversion que je vous ai annoncé. Dès l'origine, je voulais élaborer une philosophie du sublime et de la sublimation. Mais c'est d'abord la sublimation qui me captivait, son rapport avec l'Aufhebung et sa mise en œuvre dans le conflit entre pulsions de vie et de mort. C'était le sujet que j'aurais voulu traiter pour mon diplôme d'études supérieures. La difficulté, c'est que de mettre en relation le sublime et la sublimation, car ni Freud ni Lacan n'avaient établi pareil lien. Seul Lacan en avait soupçonné l'intérêt sous l'influence de Pierre Kaufmann, le seul maître que je me reconnais, qui diffusait sa pensée à la Sorbonne, puis à Nanterre, où il m'avait fait venir comme assistante. Lacan avait demandé à Kaufmann en 1959 un exposé sur l'esthétique kantienne et on avait conclu à l'époque, c'est extraordinaire, c'est juste quelques mots qu'il a lancés dont il ne s'est absolument pas servi. Sur le sublime, nous n'avons pas encore tiré des définitions kantiennes toute la substance que nous pouvions en obtenir. La conjonction de ce terme avec celui de sublimation n'est probablement pas seulement de hasard. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, enfin plutôt d'une lectrice, quand j'ai lu ça dans l'éthique de la psychanalyse. Alors, j'avais essayé de faire un résumé de cette théorie du sublime et j'en étais venue à mes sept philosophèmes, mais je conclus plus vite en me demandant si on rapproche sublime, sublimation et perversion, pour quelle discipline et quelle indiscipline ? Pourquoi ai-je tant buté dans les problèmes de la sublimation et de la subversion des valeurs en cours qu'opère le sublime et qui, à mon sens, fait pénétrer au cœur même de la sublimation? Mes difficultés sont certainement liées aux notions de discipline et de la discipline. Je me suis réveillée cette nuit en pensant, je confie à la nuit mes problèmes, et alors je fais très attention quand je me réveille avec une formule en tête, parce qu'il me semble que c'est quand même très aidant. Et alors, je me suis réveillée en pensant, le sublime n'est pas le fruit de la discipline, alors que le beau peut l'être. Bon. Alors, est-ce exact et pourquoi? Bon. J'ai rencontré trois types de difficultés dans la théorie freudo-lacanienne de la sublimation, telle que je l'avais exposée consciencieusement, par exemple dans le chapitre 9 du sublime de l'Antiquité à nos jours. Ces trois difficultés sont les suivantes. L'idée que la sublimation était originale alors que la perversion se montrait stéréotypée. C'est bien contestable, la perversion beaucoup moins stéréotypée qu'on croit. Deuxièmement, l'idée que la sublimation engendrait une désexualisation. Lacan a bien montré dans l'éthique de la psychanalyse que la sublimation se produisait au sein même de la vie sexuelle. Et c'est comme ça qu'il évoque la poésie crue des troubadours, telle celle d'Arnaud Daniel. De là la thèse chez Lacan que la sublimation ne s'exerce pas toujours obligatoirement dans le sens du sublime. Mais est-ce vrai? Bon, j'en sais rien. Après tout, le sens du sublime peut-il être prédéterminé? C'est ce qu'il y a en lui d'indéterminable qui fait son prix. Enfin, troisième difficulté, l'idée que la sublimation hegelienne renvoyait d'abord au génie spéculatif, alors que la sublimation psychanalytique concernait l'intégralité du devenir humain. Le mouvement qui oblige sans cesse à repenser des signifiants, voire à les recréer, fait songer à l'Aufhebung. Et d'ailleurs, j'avais Hegel le programme de l'agrégation, et je me souviens qu'on lisait la grande logique dans la traduction que donnait Muir en anglais, qui était vraiment beaucoup plus accessible. Enfin, moi, j'avais plutôt mieux l'allemand que l'anglais, mais il fallait un autre texte pour comprendre la lettre du texte hegelien. Et j'avais été très frappée de voir que Aufhebung était traduit par sublimation. Et il y avait là quelque chose de très précieux. Je trouve que c'est bien intéressant de penser qu'il y a la racine allemande et la racine latine, bon, que l'un a joué contre l'autre. Et vous savez qu'en français, Bourgeois maintenant propose de parler de sursomption pour bien marquer le double mouvement de l'Aufhebung, qui est abrogation, conservation et relève, dépassement. À ces trois difficultés s'ajoutait le véritable scandale que fut pour moi la découverte que parmi les écrivains que j'admirais le plus, Proust, Schide ou Mishima, trois au moins étaient cliniquement des pervers, comme le montraient ces excellentes cliniciennes que sont Janine Chasquet-Smirgel ou Catherine Millot, auteure de La vocation de l'écrivain et de Gide Genet-Mishima. Le seul titre de l'ouvrage de la première fait bondir, enfin moi. Éthique et esthétique de la perversion. La famille serait-elle oubliée ou pardonnée par les seules grâces de l'écriture? Si la clé pour comprendre la perversion et la régression au stade sadicanal et à sa terrible discipline intestinale, pouvait-on accepter la radicale suppression de la différence entre les générations et de la différence entre les sexes que préconise le sadisme et que préconise la perversion, au point que c'en est un des traits qui permettent de la reconnaître. Toutes les difficultés surgissaient dès lors qu'on comprenait la perversion, non pas seulement comme entité clinique, mais comme dimension de la psyché humaine. Point des séparations entre disciplines. Pensez les deux ensemble. Passer les résistances, ou du moins atténuer les résistances, que découvrait-on? L'habileté du sexe à franchir toutes les barrières. Mais surtout, à transmuer la souffrance en jouissance et le manque en plénitude. De terribles et fondamentales disciplines étaient issues de la libido, soumises à des principes d'organisation oraux, anaux et génitaux qui se développaient successivement, mais engendraient de profonds conflits et conduisaient à toutes sortes de régressions. Au niveau libidinal ne règne aucune paix, aucune assignation définitive d'identité, mais la lutte incessante entre des motions qui cherchent à triompher les unes des autres. Malheur ou vaincu, vae victis, mais malheur encore davantage peut-être, ou victorieux, vae victorimus. Comment, entre un ordre imposé et ce tumulte, produit non pas par l'absence de discipline, mais au contraire par la vigueur des disciplines, qu'on ne parvient pas à rendre obsolète, ne pas être tenté de choisir le déni et se soumettre à l'ordre le moins mauvais possible, l'ordre génital. Le drame est cependant que ça ne marche qu'un temps. On en revient alors au groupal, à l'intestinal, au débordant, au mortifère. C'est le règne de l'équivalent universel, des fesses qui se transforment en argent comptant. À force d'idéalisation, on transforme la matière fécale en masse financière. Le diable est poilu, noir et sans le soufre. Le tas d'or qu'il lègue à ceux qu'il séduit se transforme à son départ en tas d'excréments. D'un côté alors les maîtres, de l'autre les victimes. Les gens qui ne sont rien, ceux qui déconnent, au sens littéral, puisqu'il y a l'occurrence des sexes, ou encore les sans-dons, sur un neurotisme plus oral. Pour conclure, revenons donc sur notre parcours. Question première concernait l'étonnant prestige dont jouissait la discipline auprès de nous, et en particulier de nous, professeurs, qui avons consenti tant d'efforts pour développer la discipline que nous sommes chargés d'enseigner, de défendre et de développer. Le rebelle, celui qui n'applique pas les recettes, le déserteur même, n'a pas vraiment mauvaise presse auprès de nous, enfin de loin. Même si nous lui reprochons de ne pas traiter le sujet choisi, de déborder, de n'avoir pas de bonnes habitudes, de ne pas comprendre. Au fond, qu'apprécions-nous donc dans l'indiscipline? Je crois que c'est sa capacité de dégagement, comme je l'appellerais par opposition à l'engagement disciplinaire. C'est son refus de s'identifier à un rôle social, sa liberté de ne pas coïncider, d'errer, d'aller à côté ou ailleurs, dire merde et s'en aller. Voilà la liberté résiduelle et ultime, disait Pierre Kaufmann. C'était une citation de Smadcha, je crois. Il y a dans l'indiscipline une puissance de négation et de conversion de la négation en nouvelle position qui nous sidère toujours. Nous sentons là une force extraordinaire de vie, une manière impressionnante d'appréhender la mort. Plutôt être loup que mouton, plutôt ne pas être que d'être grégaire. Proust décrit admirablement ce à quoi nous reconnaissons le génie. Le pouvoir réfléchissant, celui de se voir soi-même comme un autre, la capacité de se promener dans les airs, de quitter l'horizontal et de décoller. C'est dans le célèbre texte sur Vergotte dans Les jeunes filles en fleurs. Je terminerai aujourd'hui mon exposé par une formule de Lacan qui qui lui fait écho et me sert de véritable viatique. Il y a identité entre le façonnement du signifiant et l'introduction dans le réel d'une béance, d'un trou. Le réel est trop plein, il nous étouffe. L'important est de nous en dégager grâce à des signifiants qu'il nous faut apprendre à laisser agir, à réinvestir et à comprendre dans des contextes déterminés, ici et maintenant. Voilà qui fait, selon moi, le sens profond de la discipline, sa transformation en hygiène de l'âme. Merci.
Alors, désormais, il est bien évident maintenant qu'on n'aura absolument pas le temps d'aborder tous les fils que tu as lancés. Moi, j'ai plein de choses écrites, mais je voudrais vous laisser la parole plutôt. Parce que,
Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas aborder tous les fils.
C'est dense.
Un méchant. Mais je vais parler d'une impression qui m'a traversé un certain moment, pas plutôt vers le milieu, là, quand vous avez parlé de difficultés que l'on a avec soi-même. Vous avez fait allusion à plusieurs fois, je ne sais pas si vous me suivez, vous avez parlé de la libido d'ailleurs de penser que l'on ne comprenait pas.
Oui, certainement, oui.
Oui, alors ça m'a fait penser, j'appellerais ça le syndrome Dominique Strauss-Kahn, mais je ne pense pas que ça soit aussi inévitable que cela. La libido, c'est quelque chose qui ne me paraît pas aussi dangereux, aussi problématique que vous le disiez. Puis alors, il y a dans le même temps, à peu près à un moment de l'exposé, vous avez parlé de... Ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, quand vous avez présenté la pensée, la façon dont vous en parliez, j'ai l'impression que... le fait de penser, de ressentir comme quelque chose de véritablement exténuant, qui posait problème. D'ailleurs, vous avez une formule que vous avez dit, par exemple, je me souviens de ça, j'aimerais comprendre ce que je pense.
Oui, oui.
Oui, alors ça, moi, je partage pas. Cette vision. Moi, j'essaye plutôt de comprendre ce que pensent les autres.
Oui.
Moi, ce que je pense, oui. c'est la donnée brute, quoi. Je pense.
Ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'il y a l'alter ego en soi-même. On est peut-être.
Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon, ça pourrait continuer.
C'est possible. Non, mais on peut aller à la salle d'abord. Bon, je vous remercie.
Oui, merci. Je pensais à quelque chose là pour avoir justement travaillé dessus moi-même, mais alors vraiment surmonté Renaissance et d'une manière historique sur rencontre et reconnaissance. Et justement, c'est un autre pôle qui a surgi de ce que vous disiez. Et j'ai l'impression, à vous entendre, que au fond, à la discipline correspondrait la connaissance et le connu, là où peut-être que la reconnaissance irait davantage. Un peu mieux à l'indiscipline, justement. Et ça nous ramène à des choses quand même relativement, outre l'ouvrage de Ricoeur qui a balayé le spectre quand même, le parcours de la reconnaissance. Curieusement, il y a quelque chose qu'il n'a pas mentionné dans son livre, une des grandes traditions de la reconnaissance occidentale, que pourtant il avait travaillé dans le temps et récit, ce qui est donc une lecture remarquable de la poétique, c'est l'anagnorisis chez Aristote et dans la poétique. C'est-à-dire la reconnaissance par le héros, et là on retrouve le sentir et la sensation dont vous parliez très bien, hein. La reconnaissance par le héros, vous savez, bon, toutes les scènes de reconnaissance au théâtre. Il se trouve justement que dans les lectures de la poétique d'Aristote quand elle arrive en Europe, et notamment en Italie, par le biais, au fond, d'une sorte d'élargissement du spectre, petit à petit, via le personnage, puis le spectateur, puis pourquoi pas le lecteur, peuvent se trouver intégrés dans le processus. Et au fond, je termine juste là, parce que là aussi vous parliez de Proust, lorsque Proust dit que l'ouvrage de l'écrivain est comme un instrument d'optique, il ajoute ensuite « La reconnaissance par le lecteur est la seule preuve de la vérité de l'ouvrage. » Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, merci beaucoup, j'avais évidemment pas du tout vu tous ces arrière-plans, mais de la rencontre à la reconnaissance, là je suis servi moi-même.
J'ai été très impressionnée, moi, chez Ricoeur, pour revenir à ce que vous disiez, par le fait qu'il définit la reconnaissance comme un opérateur axiologique de distribution des valeurs. Oui. Et là, il y a quelque chose, je trouve, d'assez sensationnel, c'est-à-dire que c'est la valeur, c'est là la liaison avec l'éthique. Oui. Curieusement, on peut très bien, dans le cas du sublime, avoir affaire à quelque chose qui est indéterminé et qui est pourtant reconnaissant d'une valeur. Et c'est ça qui rend le sublime si difficile à penser. Et là, on voit que Lacan l'a manqué d'une certaine manière, c'est pas dans son vocabulaire, mais cette extraordinaire tradition, le sublime. Qui se maintient depuis la plus haute antiquité, Démétrios, bon, même Platon, enfin bon, ouais, et qui parcourt tous les âges, sauf avec une interruption quand même au Moyen-Âge, parce que on le rhétorise en quelque sorte, le philosophiser, si l'on peut dire, avec Longin. Mais là où j'ai eu quand même beaucoup de chance dans ma recherche, c'est d'une part, j'ai trouvé tout un corpus que je n'imaginais pas la richesse du tout quand j'ai commencé à le travailler. On connaissait tout juste Kant sauvait le sublime, parce qu'on se rendait compte que grâce à Kant, il devait y avoir là-dessous quelque chose d'intéressant, mais c'était très, 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 très peu travaillé. Donc j'ai eu la chance de découvrir ce corpus, et puis j'ai eu une deuxième chance qui était... que je travaillais d'un côté en anthropologie psychanalytique, c'est pourquoi j'avais été recrutée à l'origine à Nanterre, et l'autre côté en 18e siècle, qui était le siècle, à cause de la Révolution française sans doute, mais à cause de toute la critique de l'Ancien Régime, de cette effervescence extraordinaire des idées, et puis d'une philosophie incroyablement ouverte, enfin, il fallait avoir toutes les pratiques du signifiant possible. Bon, ça c'est une chose magnifique que... un Diderot, même un Rousseau, un Voltaire, les exemples d'hommes vraiment, vraiment, vraiment complets. Ce sont des gens qui veulent tout, qui ne veulent rien extraire d'eux-mêmes. Enfin, là, il y a quelque chose de passionnant et qui veulent justement injecter de la valeur dans ce tout, c'est-à-dire être reconnus comme d'admirables hommes de théâtre, d'admirables théoriciens de la comédie, etc.
Merci, oui. Ce superbe exposé. J'avais une question, parce que tu as parlé de la reconnaissance. Et je me posais la question de ce que
j'ai
tu
parlé de là
de la reconnaissance.
Oui.
Tu as parlé de la sublimation, mais est-ce qu'un autre nom de la sublimation... n'est pas finalement l'irréconciliable.
L'irréconciliable.
Ah, l'irréconciliable, oui. Pardon, merci.
Je pense par exemple à l'essai de François d'Assise avec la première règle des frères mineurs de constituer une règle dont il se rend compte que c'est finalement une discipline tellement rigoureuse que c'est une non-discipline absolue et qu'elle est à la fois l'horizon de l'imitation christique qu'il souhaitait, et en même temps l'écart absolument total de ce qui s'avère impossible absolument à atteindre. Parce que cette question de l'irréconciliable, est-ce que c'est ça que tu entends un petit peu dans la béance, le trou que tu évoquais après ta dernière conférence à Lacan? Voilà, c'est une question.
Oui, oui, oui. Au fond, je ne me suis pas du tout reconnue dans le portrait que vous très cette fois, parce que, et, comment dire, je trouve que la pensée est très excitante. Donc je, et ce qu'il y a, c'est que on connaît une sorte de saturation par ce réel trop plein. Bon, ça, c'est les sentiments de... Alors, comment faire pour que quelque chose puisse être pensé? Il faut d'abord faire de la place. C'est comme si, avant d'aller au musée, bon, pour être ébloui, pour avoir chance d'être ébloui par une œuvre et qu'elle vous fasse complètement travailler, il ne faut pas trop investir. On regarde les choses comme ça, un peu distraitement. Au moment où la chose arrive... Et où toute son énergie psychique est en quelque sorte disponible. On ne peut pas travailler de façon continue. C'est cette espèce des sauts de puce de la pensée qui sont étonnants parce qu'ils se font que sous certaines conditions et qu'on arrive en essayant de s'observer, en trichant un peu avec soi, en voyant... À espérer et à rencontrer effectivement des moments où les choses s'éclairent d'une certaine manière, où se concentrent et s'éclairent, fulgurent. C'est peut-être ces moments-là de la pensée. Alors ça, c'est vrai, vous avez raison, je ne suis pas, d'une certaine manière, j'admire beaucoup... ceux qui très régulièrement se mettent au travail à la même heure, écrivent un certain nombre de pages. Moi, je passe toujours, quand j'ai un sujet difficile qui me tient à cœur, des moments où tout se brouille. Et il me semble que j'ai besoin de ce, comme un brouillage de cartes, j'ai besoin de ce brouillage préliminaire pour que les choses ensuite se mettent en place. Et je suis arrivée à me dire que ça, je ne peux pas faire autrement. Et c'est ce que j'explique. Je vois du côté de Danae une compréhension parce que mes étudiants en thèse me racontent ça. Ils me racontent maintenant qu'il y a des moments extrêmement désagréables où ils ne savent absolument plus par quel bout prendre les choses.
Quelle chose ? Celle que vous exposez ?
Ah non, je veux dire, il me renvoie ce sentiment, pourquoi est-ce qu'à certains moments on comprend très simplement, sans fatigue, en suivant un texte, et qu'à d'autres moments, y a vraiment quelque chose, un rapport difficile, étrange, qui se noue avec le texte.
Bon. Peut-être, y a une notion qui est proposée par Gilbert Simondon et qui me semble... Elle est tout à fait dans cette énergétique comme ça de l'œuvre, c'est celle d'individuation. Et François Rastier, là, donc c'est cette idée d'une prise de forme à partir d'un corpus, et précisément où on laisse le temps de ce brouillage. François Rastier le relie à Michel-Ange, à la Via di Levare. C'est ce moment donc, d'une découverte d'une forme à l'intérieur d'autres formes, comme ça. On en reparle de ça. L'idée dans la création d'un laisser-venir, d'une découverte à partir d'autres formes. Et du coup, j'ai l'impression que ce que tu essayes de décrire, c'est ce moment de l'individuation, qui n'est pas un moment d'individualisation, on n'est pas tout seul, ex nihilo. L'individuation, elle se fait par transmission.
Oui, c'est très juste, oui, certainement.
Je ne sais pas.
C'était mon professeur.
Ah oui, c'est vrai. J'ai le devoir cruel de nous arrêter.
Non.
Et pas si cruel puisqu'il y a un pot qui vous est offert juste après par la maison Heine, que je remercie encore de nous.